avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Baudouin Morellec, bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons dans le cadre de cette émission de l'Observatoire sociopolitique diocésain et vous êtes venu à l'antenne pour nous présenter votre travail de recherche dans le cadre de votre master en relations internationales. Vous vous êtes penché sur la problématique du recul de la démocratie en Occident.
Oui, exactement. Le recul démocratique en Occident. Donc, mon travail, la critique que j'en tire après l'avoir soutenu en novembre, c'est que je n'ai fait effectivement que brosser le tableau de la littérature anglo-saxonne sur le sujet. Je n'ai fait qu'esquisser ce que traverse notre société, puisque la recherche, c'est ouvrir des portes sans en passer le seuil, sinon on se perd. Alors, qu'est-ce que le recul démocratique ? Avant d'expliquer ce que c'est, nous devons voir ce qu'est la démocratie. L'idée démocratique remonte à l'Antiquité, à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le mot « démocratie », composé de « démos », le peuple, et « kratos », le pouvoir, montre l'idée d'un gouvernement par et pour le peuple. Suivant divers processus, elle remplace le régime monarchique de la cité. C'est pourquoi c'est cette démocratie qui servit de modèle à l'Amérique et à la France au XVIIIe siècle. Les années 90 ont marqué l'apogée de la démocratie. Depuis, elles ne font que diminuer, car beaucoup ont pensé que la démocratie, en tant que valeur universelle, pouvait s'implanter partout. Nous avons la preuve de l'échec en Afghanistan face aux talibans, l'été dernier, après 20 ans de présence militaire. Une implantation lente et respectueuse des traditions a été recommandée, mais bien trop tard. La démocratie en Occident est défaillante, comme l'a montré le Covid et les décisions autoritaires que cela a provoquées. Elle subit un recul, mais peut-être pour mieux progresser. Un pas en arrière pour l'élan d'un rebond, par exemple, ou possiblement vers un nouveau système, non pas international mais unique à chaque pays, une sorte de démondialisation politique. Par exemple, nous ne trouvons pas nécessairement un bicaméralisme, un parlement, un président ou un premier ministre dans tous les pays. Le recul est une menace contre la démocratie. Par exemple, ça a été de gifler le président l'année dernière. Nous pouvons observer depuis quelques années, en Europe, une montée du populisme avec Orban en Hongrie, le parti Vox en Espagne, le parti Droit et Justice en Pologne, ainsi qu'en Italie et en Suède. Nous avons aussi la preuve du vote du Brexit, qui est la plus grande participation populaire à un vote depuis la Seconde Guerre mondiale, il faut le rappeler. C'est la naissance d'une sorte de national-populisme dans lequel prévaut une conception ethno-culturelle de la nation. Dans tout cela, le point de vue français montre que la modernité politique est celle d'un relativisme bourgeois libéral, le bourgeois étant un être sans statut, et le libéralisme sans projet, sauf peut-être d'unifier le monde sous un seul système liant le politique et l'économique, la démocratie libérale. La Renaissance, la réforme et contre-réforme, les Lumières et les Révolutions ont brisé l'élan civilisationnel et l'héritage démocratique s'il existait. Le recul démocratique, ou backsliding en anglais, signifie le détournement volontaire d'un idéal, une rupture démocratique pour donner place à un régime autoritaire sans ambiguïté. Ce recul a lieu en quatre points. Premièrement, un éloignement de la démocratie. En deuxième point, le changement graduel et progressif. Troisième point, cela peut mener ou non à un changement de régime. Et finalement, c'est un recul déterminé par l'élite politique qui profite de son pouvoir pour saper la démocratie et marginaliser les oppositions. Pour certains, dans le monde actuel, nous faisons face à une contre-révolution opposée à la démocratie constitutionnelle libérale. C'est une réponse aux vagues de démocratisation. Nous avons de nombreux exemples à travers la décennie que nous avons traversée. En France, les gilets jaunes et les bonnets rouges. Nous avons aux États-Unis toutes les émeutes qui ont fait face à Black Lives Matter, ou encore dernièrement, en 2021, l'investissement du Capitole par les supporters de Trump. En Grande-Bretagne, nous avons les émeutes de Londres, en 2011, et les manifestations pro- et anti-Brexit. Je pose le constat que la violence a investi le champ politique, le climat social répondant aux événements provoqués par le gouvernement, ou qui est subi par ce gouvernement, par exemple les émeutes pour la mort de George Floyd, et toutes les émeutes Black Lives Matter dont j'ai parlé, qui ont une répercussion internationale, ainsi que toute la démolition des statues dans l'année 2021. ce sont des vagues de violence lors de grandes manifestations sociales, des attaques contre les forces de l'ordre. Par exemple, le 1er mai, nous avons vu, il y a quelques années, un CRS en flammes à cause d'un cocktail Molotov. Il y a aussi de nombreuses dégradations de monuments ou des attaques contre les magasins qui sont volés, etc. Tout cela rend compte du recul de l'expression démocratique. L'augmentation des fréquences de violence, combinée à la pression extérieure représentée par la menace terroriste et la défiance envers les forces de l'ordre, montre le délitement de l'ordre démocratique. La démocratie semble être tenue en échec, soit par le manque d'aménagement pour l'expression des citoyens, soit dans la dépréciation des institutions par ses citoyens. Nous faisons face à une perte de confiance et une perte d'autorité de la part du gouvernement. Il y a un blocage par le manque de débat et de concessions entre majorité et minorité, entre gouvernement et population. La crise de la démocratie serait une crise de légitimité. En effet, nous faisons face à un recul de souveraineté nationale et une incarnation molle de l'État, ce qui le décrédibilise. Dans cette société individualiste, chacun est sa propre autorité. Il n'y a donc plus de système pyramidal avec l'État au sommet. Tout semble plat. Nous faisons face à une sorte de régression. Aujourd'hui, les populismes prennent de l'ampleur. Deux camps se forment en Occident. Conservateurs contre progressistes, loi naturelle contre théorie du genre ou cancel culture woke. L'absence de conflits unificateurs fait rejaillir les différences irréconciliables entre les peuples et sème la division au sein des nations. La démocratisation tant attendue après la chute du bloc soviétique fait face à une vague d'autocratisation. Le paradigme selon lequel la démocratie semble stable et permanente dans les vieilles démocraties riches ne tient plus. Il y a eu plusieurs tentatives pour relancer cette crédibilisation de l'État. Par exemple, le projet Rebâtir la France, qui est le projet politique du général Tauzin, qui s'était présenté à la présidentielle de 2017. Ailleurs, il y a un besoin fondamental en France d'un retour de l'homme fort, ce qui est en fait une des histoires qui revient en France, par exemple Jeanne d'Arc et dernièrement Charles de Gaulle. Ainsi écrit Richard Alain Marceau de la Bouygues dans Charles de Gaulle, le dernier Capétien, publié en 2017. Je cite « En 1958, et pour la première fois depuis 1789, la France voit à sa tête une personnalité possédant les trois fondements de la légitimité. » Fin de citation. Le système monarchique et républicain n'a pas survécu au général de Gaulle. Il a su donner l'impulsion, mais la politique n'a pas suivi. Il n'y a pas eu de réaction. La France était un exemple dans son catholicisme social à la fin du XIXe siècle. Ainsi, par exemple, à la demande du député Ambroise Joubert, il y a l'interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans, en 1872, la fin du travail de nuit pour les femmes. Albert Demain, lui, proposera les caisses d'assurance accident, la création d'une législation internationale du travail, les caisses de retraite et de maladie pour les ouvriers, le rétablissement du repos dominical, 4 semaines de congés pour les femmes ayant accouché, un salaire minimum, etc. Il y eut aussi la proposition de la création d'un ministère du Travail, qui finalement arrivera 11 ans plus tard, et un système d'assurance obligatoire contre la maladie et la vieillesse, 30 ans avant la naissance des assurances sociales. Ainsi rappelle Jean Sevilla dans son livre Historiquement correct. Ce catholicisme social me donne l'occasion de m'exprimer en dehors de mes recherches, puisque en tant que catholique, vous pouvez chercher dans le catéchisme de l'Église catholique, à la fin, dans le sommaire, on peut chercher le mot politique. Ainsi, il est écrit au canon 407 « Ignorer que l'homme a une nature blessée donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique et de l'action sociale. » Un autre canon, lui, nous fait remarquer que nous sommes le peuple de Dieu, et nous avons des caractéristiques qui nous distinguent nettement de tous les groupements religieux, ethniques, politiques ou culturels, puisque Dieu n'appartient en propre à aucun peuple. Il est aussi écrit au canon 899 « Les fidèles laïcs se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église, par eux, l'Église est le principe vital de la société. » Il y a aussi les canons 1881 à 1902, qui parle de la famille, de la socialisation, de l'intervention de l'État et des principes de subsidiarité. Le canon 1902 remarque « L'autorité ne tire pas d'elle-même sa légitimité morale », quand le canon 2242 dit « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». De même, nous pouvons chercher les mots « société démocratique » dans le code de droit canonique, ici qui est disponible sur internet à droitcanonique.fr. Le canon 226 montre l'importance de l'apostolat des laïcs mariés pour l'Église et la société civile. Leur rôle est par exemple l'éducation de l'enfant, la protection de la liberté de choix des écoles et la défense de la famille. À cela, nous pouvons rajouter les canons 793, 797, 799. En termes de démocratie, par exemple, le canon 391 montre que la division des pouvoirs de la société démocratique moderne ne s'applique pas dans l'Église. Il rajoute, au canon 661, l'importance de la formation permanente et au canon 795, que l'éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine, ayant en vue sa fin dernière en même temps que le bien commun de la société. Voilà les indications de l'Église pour le comportement du chrétien dans la société. Pour pousser plus loin la réflexion, il vous serait possible de lire « La fin de l'histoire et le dernier homme » de Francis Fukuyama, ou alors « Le choc des civilisations » de Samuel Huntington, « Le grand échiquier » de Zbigniew Brzezinski, ou encore « Diplomatie » de Henry Kissinger. Donc, tout ça, ce sont des visions plutôt américaines des relations internationales. Il y a aussi les conceptions de la nation, en France notamment Renan, fin 19e, qui a écrit de longues conférences sur la conception de la nation, qui s'opposait à celle de Fichte. Nous sommes entourés de grandes puissances en France. Nous nous trouvons face à la Chine, à la Russie, aux États-Unis, mais il existe bien une voie française des relations internationales. Donc, par exemple, il y a le livre « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre » de Yves Lacoste, « La stratégie à l'âge nucléaire » de Pierre-Marie Gallois, « L'intérêt de la diplomatie » de François Tual, qu'il écrit dans ses ouvrages, ou encore les analyses « Entre ethnie et civilisation » d'Emeric Choprade. De même, nous pouvons citer d'un point de vue historique Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, François Furet, ou encore du siècle dernier, Marcel Gaucher et aujourd'hui Ali Cassan-Sigil. Voilà donc l'explication que je vous propose pour le recul démocratique en Occident. Merci de m'avoir écouté et merci à l'Observatoire sociopolitique de la radio diocésaine.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.